Bonjour à tous, je suis Vanessa et bienvenue sur Boost à Recherche d'Emploi Podcast. Boost à Recherche d'Emploi Podcast est une plateforme où l'on échange des conseils, des expériences pratiques sur la recherche d'emploi et le développement de la carrière. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial qui s'appelle Papis Camara. Papis est le CEO et le fondateur de la société Papis for Business, qui est une société de consulting qui accompagne les entreprises à développer leur potentiel et à croître leur valeur commerciale. Après 10 années passées chez L'Oréal dans le domaine de la vente, du marketing et du management, il rejoint en 2017 la société THG, qui est leader mondial de la beauté en ligne et du bien-être. Ensuite, il occupe des postes de direction au sein de Glossybox France, une marque digitale, et également au sein de la marque You Parfum à Londres. Lors du premier talk avec Papis, nous avions principalement échangé sur les raisons qui l'ont motivé à quitter L'Oréal pour un autre groupe, alors qu'il était juste au top de sa carrière chez L'Oréal. Et si le fait d'être un homme est un facteur favorisant l'évolution de la carrière dans le secteur de la beauté, aujourd'hui, pour ce second talk, Papis partage des tips sur la façon de bien choisir les prochaines étapes de sa carrière, les critères qui guident les choix professionnels et comment négocier son salaire lors d'une embauche ou une promotion. Nous échangeons également sur la façon dont il a évolué vers l'entrepreneuriat et quels sont les services que propose aujourd'hui son entreprise Papis for Business. Bonne écoute! Tu as commencé à y répondre, mais je vais quand même te reposer la question. Effectivement, tu as changé d'entreprise, tu as occupé plusieurs postes, que ce soit dans des entreprises dites corporate ou également dans des startups. Comment es-tu arrivé à identifier que pour toi, il était temps de passer à autre chose? Pour toi, comment arrivais-tu à te dire, là maintenant, c'est le next step, je dois bouger?
Alors, il n'y a pas une réponse exacte à cela, en fait, précise. Je vais essayer de donner plusieurs réponses. Par exemple, chez L'Oréal, je fais 10 ans, dont 6 jobs différents. Et la plupart du temps, c'était des 6 promotions. J'étais promu, comme on dit. Donc ça, c'est une chance aussi, mais la chance, ça se crée, bien entendu. Souvent, on crée une nouvelle structure et on monte une équipe, comme à l'époque en 2010, pour s'occuper de la marque Soshin Carson Dark & Lovely sur le continent africain, sur les US et l'Europe. Et dans cette structure marketing, ils cherchaient quelqu'un avec un background du circuit coiffure et ils ont pensé à moi. Donc voilà, il y a aussi souvent le bon moment, on va dire, comme quand je suis promu pour aller m'occuper de Lancôme au Travel Retail au UK, qui est, by the way, le plus gros marché duty free en Europe. Et Lancôme, qui est la plus grosse marque luxe de L'Oréal. Il se trouve que la dame qui s'occupait de cette marque à Londres venait de quitter L'Oréal. Et donc, du coup, une des filles qui était déjà chez Lancôme a pris son poste. Et donc, l'autre poste s'est libéré. Donc, voilà. Et souvent, c'est on va dire, la chance, le hasard, le fait de rencontrer les bonnes personnes, tout cela joue. Mais après, moi, je suis très stratégique. Quand je décide d'aller chez Lancôme, je veux passer du marketing au business, parce que ça, c'est un poste business où je gère une équipe de plus de 25 personnes, où je m'occupe de la relation avec les retailers, and so on, and so on. Quand je finis Lancôme, je suis promu pour m'occuper des plus grands comptes de L'Oréal au UK, les coiffeurs de stars, de célébrités qui sont chez Harrods, Selfridges et tout. Pareil, je parle à des ressources humaines qui voient cela comme un next step. Donc voilà, c'est souvent soit parce qu'on m'en parle, mais aussi moi, il faut que je vois ce qui est stratégique pour moi. Et après, la chance, quand j'ai fini Glossybox, quand j'étais DG France de Glossybox, pour passer de Glossybox à You Parfum, qui est ma toute dernière expérience professionnelle avant de lancer ma boîte, il se trouve qu'il y avait deux investisseurs qui investissaient dans une joint venture, qui cherchaient quelqu'un basé à Manchester avec une expérience cosmétique, une expérience fragrance, une expérience subscription. Je venais de Glossybox et subscription. Donc du coup, en fait, ça a tiqué tous les box. C'est une chance, c'est une coïncidence, j'en sais rien, mais j'avais l'impression que le job description, c'était vraiment moi, en fait, tout mon parcours. Donc voilà, c'est vraiment aussi un tout, au lieu de dire c'est juste grâce à ça.
D'accord. Donc en fait, si tu devais résumer, quels sont du coup les critères qui guident tes choix professionnels? Parce qu'on comprend qu'effectivement, il y a des opportunités, mais qu'également,
quelque part, tu avais une stratégie et aussi. Donc, si tu pouvais résumer, quels sont les critères qui te guident?
C'est une belle question, Vanessa. En fait, je me souviens toujours, j'avais écouté un motivation audio, Jim Rohn, qui est plus de ce monde, mais qui pour moi est l'un des meilleurs motivational speakers ever lived. Il a dit, when you go to a new job, the most important thing to ask is not what I am getting there, but what I'm becoming there. La chose la plus importante à demander, ce n'est pas ce que je vais recevoir, parce que les gens pensent toujours salaire, mais la personne que je vais devenir grâce à ce boulot. Parce que si vous devenez quelqu'un grâce à ce boulot, le salaire suivra en fait. Parce que le milieu du travail va rémunérer vos compétences et vos différences. Et les compétences et les différences se construisent au fur et à mesure d'une carrière. Donc voilà. Donc moi, c'est vraiment ce poste, qu'est-ce qu'il va m'apporter en plus sur ce que je vais devenir dans 10 ans à peu près. C'est moi. Qu'est-ce que je peux apporter à ce poste? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, ils pensent juste à ce que le poste peut leur apporter, mais l'inverse, qu'est-ce que je peux apporter à ce poste? Si c'est un poste où je n'ai pas d'added value, de valeur ajoutée, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'aime pas faire des choses in the box. J'aime bien think out of the box, j'aime bien apporter de la valeur ajoutée. Donc, pareil, si au niveau de ma situation personnelle, si cela le permet, quand je suis promu pour aller au Royaume-Uni il y a 7 ans et demi, voilà, je peux me permettre parce que je n'ai pas forcément d'attache personnelle en France, en dehors de ma sœur, ma nièce. C'est déjà une grosse attache personnelle. Mais je veux dire, oui. Derrière, je ne suis pas en couple, je n'ai pas d'enfants. Ça me facilite. Je n'ai pas dit que c'est impossible quand on est en couple, on a des enfants, mais ça facilite pour être réaliste, pour bouger au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est un pays difficile, auquel il est difficile de dire non en termes de business, parce que voilà, c'est un pays mature en business, l'un des pays les plus matures au monde. Donc je sais qu'en allant au Royaume-Uni, je vais prendre une autre dimension. Et derrière aussi, ça va rajouter à ma carrière, pardon, à mon profil international que je veux cultiver. J'ai vécu dans 5 pays déjà, Sénégal, Côte d'Ivoire, France, UK, Finlande pour un semestre étudiant. Et donc voilà, c'est pour moi, c'est une continuité pour construire ce profil international. Donc c'est vraiment beaucoup de choses qui font que je choisis un job ou pas. Et bien entendu aussi le package, je ne parle pas du salaire, je parle du package, parce que souvent les gens se concentrent sur le salaire. Mais je conseille aux gens, pensez pas salaire, pensez package. Je donne un exemple, si votre salaire est 10, je dis n'importe quoi, et que derrière, il n'y a pas la voiture ou l'assurance maladie, ainsi de suite, ben peut-être il y a une personne qui va toucher 8, mais derrière, elle a tous ces autres avantages. Du coup, quand on fait la différence, cette personne gagne plus que vous. Donc voilà, il faut penser à tout en fait.
Tout à fait, ça se contrebalance. Donc, ma prochaine question, Papy, c'est de savoir, à chacune de tes nouvelles étapes professionnelles, comment du coup t'es-tu préparée? Quels sont les atouts que tu as mis en avant à chaque fois pour pouvoir obtenir ces jobs? Et tout à l'heure, on parlait du salaire. Tu sais, ça reste quand même une question super importante. Comment arrives-tu à chaque fois à négocier ton salaire et négocier en fait une promotion?
Alors, moi, je dis souvent que j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui m'ont aidé au fait. Et je ne crois pas au fait qu'on arrive quelque part sans l'aide de personne. Déjà, j'ai l'aide divine parce que je dois ma vie en Dieu. Et donc, j'ai déjà cette aide divine, mais surtout, je rencontre des gens qui, dans mon parcours, m'ont aidé. Et je me souviens, c'était en 2009 ou en 2010. Donc, ça date. Et j'avais 27-28 ans et je me souviens, il y avait un grand patron chez L'Oréal. Il se trouve que c'était comme un mentor pour moi. On se rencontrait 3-4 fois par an. Une fois, on avait déjeuné dans le restaurant à L'Oréal, à rue Royale, Paris 8e, et il m'avait dit, ne fais pas comme la plupart des gens de ton âge qui, lorsqu'ils arrivent sur un poste, pensent tout de suite au next step. Il m'a dit cette phrase que je ne vais jamais oublier. Il m'a dit, quand tu as un poste, Papis, fais tout pour le cartonner, concentre-toi sur ce job, donne le maximum, parce qu'un groupe tel que L'Oréal, les opportunités viendront tout le temps naturellement. Et donc, du coup, quand je suis sur un poste, je pense pareil, moi, j'ai fait une école militaire où pour rentrer, ils font un concours en classe de CM2. Il se trouve qu'il y a 2000 personnes qui passent au concours au Sénégal et il n'y a que 3% qui sont retenus chaque année. Donc déjà, moi, j'ai grandi avec cette culture d'excellence où quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Donc quand je vais sur un job, je veux vraiment apporter une valeur ajoutée. Et je dis cela aux gens qui nous écoutent, surtout aux plus jeunes. Ça veut dire que quand vous arrivez sur un boulot, il faut faire une différence. Moi, il m'est arrivé de bosser plus que les autres, de sacrifier des week-ends, des sorties. Ça, c'est un choix personnel. Je ne dis pas à tout le monde de le faire. Mais en tout cas, on n'a rien sans rien. Faut penser, faut arrêter de penser qu'on va faire les minimums et derrière les promotions aussi. Non, les gens qui sont promus, c'est des gens qui bossent beaucoup. Après, dans certaines boîtes, il y a beaucoup de politiques et autres. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que j'ai toujours été contre. Et moi, je suis très brut de coffre. Je dis les choses telles qu'elles sont. Donc, je ne vais pas parler de ça parce que c'est même des choses qui m'exacerbent. Mais je pense plutôt, je préfère parler de hard work, en fait. Vraiment, travailler dur et faire une différence. Et pour revenir sur le salaire, bien entendu, il faut négocier un salaire. Et derrière tous les gens qui nous écoutent, il faut négocier un salaire. Et derrière les ressources humaines ou les managers adorent quand vous négociez un salaire. Parce que je me souviens toujours, un de mes DG en 2010 m'avait dit, si tu négocies pas bien ton salaire, comment comptes-tu demain négocier des contrats pour moi avec des clients? Et je me souviens toujours de cette phrase. Donc du coup, le salaire, comment on le négocie avant d'aller en entretien? Il faut se renseigner, il faut demander, faut faire un network assez sain. Dans une entreprise, vous connaissez beaucoup de gens, des gens qui ont occupé ce rôle avant ou vous connaissez des managers de telle personne. Vous renseignez sur les grilles de salaire, il y a un marché. Dans une ville ou dans un pays pareil, il y a un marché au fait. Il faut se renseigner et par rapport à l'increase qui se fait, vous pourrez négocier. Mais voilà, il faut toujours vraiment négocier. Et après, j'ai la réputation d'être assez tough in negotiation, d'être très dur en négo. Donc oui, j'ai pu bien négocier mes salaires en général.
Ok, ça marche, très clair. Papis, quand on t'entend, ça a l'air tellement facile. Tu as eu pas mal de succès. C'est vrai que là, tu parles de la valeur du travail, du hard work. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'à un moment de ta carrière, tu as connu un échec? Et si oui, qu'est-ce que tu en as retenu? Quelles sont les leçons que tu as apprises? Et comment t'en es-tu sorti?
Alors oui, des échecs, il y en a eu tout le temps. Et d'ailleurs, les gens, ils voient justement le succès plus que les échecs. Et je peux vous dire que, quand je dis vous, pas toi, Vanessa, parce qu'on se tutoie, mais l'audience, les gens qui m'écoutent, j'ai eu plus d'échecs dans ma vie, au fait, que de réussites. J'ai eu plus de non, plus de portes fermées. Mais justement, moi, en fait, toutes ces portes fermées m'ont donné envie d'aller plus loin. Et en échec, je peux donner un exemple plus récent, on va dire. Il y a à peu près 18 mois, la startup YouParfum que j'ai créée de A à Z et lancée, qui est une plateforme e-commerce avec sa propre marque de parfum, ben, on devait la lancer il y a plus d'un an, en fait. Plus d'un an, il y a eu des retards. Après, on devait la lancer en novembre 2019. Il se trouve que quand on finit le site internet, quand on fait du testing, du A/B testing, du user testing, ben, le résultat du user testing, il est négatif, en fait. Alors qu'on est en septembre et on est sur le point de le lancer en novembre, on se rend compte que les users, les utilisateurs, je pense, oui, que c'est en français, ils n'aiment pas le site pour telle ou telle raison, parce que c'est trop compliqué, c'est confus, le online experience is not a great one, blablabla. Et donc, du coup, on se retrouve face à un mur, et moi, je prends la décision de prendre du retard sur le projet et de dire à mes deux investisseurs qui pourtant me poussaient à lancer en disant, non, on ne va pas lancer parce que si on lance, c'est trop risqué. Et je prends un retard de 6 mois, qui n'est pas rien, pour refaire le site, pour refaire un autre user testing, et qui fait que le site qui est lancé que finalement au mois de mai est là, qui va le lancer là, dans quelques semaines à cause du COVID. Mais le résultat, il n'a rien à voir avec le premier résultat. Donc en novembre, ça aurait pu être vu comme un échec. Mais moi, je ne retiens pas le mot échec, au fait. Je vais aller plus loin. J'ai échoué sur le fait que je n'ai pas lancé en timing, mais derrière, c'est 6 mois, j'en profite pour lancer quelque chose de top ici. Ce qui est le cas.
Très bien. J'aimerais aussi qu'on parle du coup de ta nouvelle expérience, hein, en tant qu'entrepreneur avec Papis for Business. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment t'en es arrivé là?
Alors, c'est une idée qui m'est venue il y a un an. Depuis un an, je voulais me lancer à mon propre compte. Et j'ai beaucoup hésité. Par contre, l'idée en moi, elle y est depuis toujours. Et je me souviens même quand j'arrive en entretien en avril 2007 avec une des RH Monde de L'Oréal, la division coiffure. C'était mon deuxième ou troisième entretien avant de rentrer chez L'Oréal. Elle m'avait dit, Sylvie d'Angelserre, si elle m'écoute, ou si elle nous écoute, elle m'avait dit... Je ne comprends pas pourquoi vous voulez rentrer chez L'Oréal, pourquoi vous ne créez pas votre propre boîte. Et sa question, je l'ai trouvée tellement pertinente, je me suis dit, elle, c'est une vraie RH, pour le coup. Parce que dans RH, il y a ressources humaines et le mot humain, elle sait lire les gens. Et je lui avais répondu, un, je n'ai pas envie maintenant. Deux, je ne suis pas encore prêt. Donc, j'avais toujours cette fibre, on va dire, entrepreneuriale. Et je savais qu'un jour, j'allais me lancer. Mais je voulais me lancer quand je serais vraiment armé, quand j'aurais les épaules assez larges. Et voilà. Donc, au fait, il y a un an, j'ai failli. J'ai dit, avant de lancer, il faut que je finisse You Parfum, que je finisse ce projet. Et donc, du coup, j'ai fini le projet. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai été chassé, ce qu'on appelle headhunted, pour m'occuper du digital, du e-commerce d'un grand groupe basé en Arabie Saoudite pour tous les pays du Golfe. Ils sont dans plus de 6 pays et c'était un poste qui était payé presque 3 fois de ce que je gagnais déjà au Royaume-Uni, que j'ai décliné mi-avril en pleine crise. Donc les gens qui m'écoutent, pendant qu'il n'y avait pas de boulot, parce qu'effectivement, il y avait plein de boulot, il y avait des avantages exceptionnels et j'ai tout décliné pour me lancer dans moi. Propre boîte, parce que je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, ce sera jamais au fait. Donc non. Ça apparaît, c'est un risque, parce que j'ai dit non à beaucoup de choses, on va dire matérielles, et aussi un job, c'est assez important, mais parce que pour vivre ma passion, et je sentais que c'était le bon moment, et donc c'est pour cela que j'ai créé Papis for Business. Je travaille depuis juin 2020, et là on va lancer le business en septembre 2020. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les entreprises sur, on va dire, 4 fonctions principales. Online digital, ce qui peut se comprendre avec mon parcours ces 3 dernières années. On va soit les accompagner à créer un site internet ou à refaire le site internet, parce qu'un site internet, c'est vraiment une des premières vitrines de nos jours pour une société. Donc, c'est important quand on arrive sur ce qu'on appelle sur le landing page, à quoi ça ressemble, le online experience, le online journey, tout cela. Après, l'autre partie ou l'autre focus de mon business, c'est tout ce qui est mentoring, coaching, et c'est des choses que je fais sur mon propre temps depuis des années.
Je confirme.
Voilà, on s'est connus de cette façon, et du coup, je me suis dit pourquoi pas le rendre professionnel. L'autre partie, c'est la partie stratégie. Imaginez une entreprise basée en France ou au UK et qui va aller s'installer au Cameroun, ton pays d'origine, ou au Sénégal, et du coup, on va leur faire une stratégie d'accès au marché, on va les accompagner. La dernière partie, ben, c'est marketing, c'est mon parcours chez L'Oréal. Créer une marque d'A à Z, créer des produits, lancer une marque sur un marché, ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas plus pour business. On est là pour accompagner les entreprises, qu'elles soient start-up, parce que j'ai fait des start-up depuis 3 ans et demi, ou corporate, parce que je viens aussi du milieu corporate. Et on va les accompagner dans ces 4 fonctions qui sont online digital, coaching, mentoring, stratégie et marketing.
Très intéressant. Et ceci dans tous les domaines, c'est ça?
Oui, nous, c'est une très belle question, Vanessa, parce que j'en avais parlé à une femme anglaise que je coach depuis 2 ans, qui a une application de beauté. Et elle pensait que mon business allait targeter que les entreprises de beauté. Et je lui dis non, parce que quand on a réussi dans un univers, on peut transférer les skills, comme on dit, sur d'autres. Donc non, je ne vise pas que les entreprises de beauté. Qu'elle soit entreprise de fashion. Là, j'ai rencontré un client qui est basé à Tours, qui fait des cuisines professionnelles, qui équipe des restaurateurs connus, qui équipe des hôtels et autres. Là, je parlais à une cliente qui est basée à Agadir au Maroc, qui est un designer, donc qui veut lancer sa propre e-commerce plateforme pour vendre sa propre création. Voilà, j'ai aussi des entreprises naturellement dans la beauté, des grands groupes, des startups. Donc voilà, c'est vraiment du tout en fait.
Très bien, je te souhaite beaucoup de succès en tout cas avec cette nouvelle entreprise.
Merci beaucoup.
Nous arrivons au terme de ce second talk avec Papis. J'espère que ça vous a plu, que vous l'avez trouvé intéressant. Si oui, n'hésitez pas à le liker, le partager autour de vous. Je vous propose de nous retrouver très rapidement dans un troisième talk. Papis partage sur les aptitudes à développer, notamment en ces temps de crise, pour continuer à évoluer dans sa carrière. D'ici là, restez connectés, portez-vous bien et à très vite !